C'est vrai, ce matin, c'est un culte spécial, c'est le culte de la... Officiellement, on appelle ça le culte de fin d'école du dimanche. Cette année, c'est vraiment spécial. Hein. C'est vraiment spécial parce que l'école du dimanche, il y a longtemps qu'on ne l'a plus eue. Nos jeunes, il y a longtemps qu'on ne les a plus vus à l'école du dimanche. Et puis, pour le groupe des grands, cette année a été un peu spéciale où on était encore bien plus mélangés avec, avec l'Église pour vivre nos cultes. Donc ce matin, il y a quelques jeunes qui sont là, qui terminent leur scolarité obligatoire. Donc c'est ces jeunes-là qu'on va entourer ce matin, on va pouvoir prier pour eux. Ils vont représenter les autres qui ne sont pas là, mais on va pouvoir se réjouir avec eux. Alors j'ai demandé aux jeunes qui sont là ce matin s'ils avaient des textes, des versets bibliques qui leur parlent spécifiquement, qu'ils me les donnent pour qu'on puisse les utiliser pour le message. Un beau défi, hein. Alors, je n'ai pas eu trop, c'est parfait. Norma, tu peux venir, s'il te plaît. Norma m'a proposé le psaume 1. Elle va vous le lire.
Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent dissipe. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine.
Merci. Ce psaume, il commence par « heureux ». Heureux. C'est tout un programme et on aime être heureux, franchement. On aime être heureux. Mais est-ce que c'est si facile que ça que d'être heureux? Quand Norma m'a envoyé sa proposition de texte, j'avais déjà préparé mon message. Et c'est rigolo parce que le début de mon message, il va totalement à l'opposé de ça. Mais il va à l'opposé de ça parce qu'on réalise dans notre vie que d'être heureux, ce n'est pas toujours si évident que ça. Est-ce que vous connaissez le mot « gringe »? Grognon, mauvais poil, lever du mauvais pied aussi, hein, entre autres. C'est toutes des choses qu'on dit par moment. Ben oui, c'est une réalité. Par exemple, le matin au réveil... Ah, ils ne sonnent pas fort, je ne sais pas pourquoi on peut dormir. Ils sonnent plus fort, il faut me réveiller là. Oh non, mais j'ai pas envie de me lever, non, j'ai pas envie ce matin, mais vraiment pas. J'étais tellement tard hier soir. Bon, je tape dessus sur ce réveil, c'est bon. Hein. Oh non, j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie, je ne suis pas motivé. Et ensuite, il faut quand même se lever, il faut quand même se mettre en route. Et puis sur la route, quand je suis déjà en retard, bien sûr, qu'est-ce que je crois, qui est-ce que je rattrape? Bon, il n'avance pas, mais non, mais moi, je ne serai pas à l'heure, je dois me dépêcher, il n'est pas fichu d'avancer. Allez, allez, vas-y voir. Je ne peux même pas le dépasser. Oh, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Vous connaissez ça? Moi, ça m'arrive. Hein? Mais c'est toujours quand on est en retard que ça arrive, jamais les autres fois. C'est toujours quand on est en retard. Et bien sûr, on arrive au boulot, et puis au travail, ben, franchement, ce matin, je ne suis pas motivé, je n'ai vraiment pas envie de bosser. Eh ouais. Alors, je vais vous les redire. Vivement la pause, bien sûr, le matin, on attend la pause. Vivement ce soir. Vivement le week-end. Vivement les vacances. Et vivement la retraite, finalement. Hein? Alors, la journée se passe tant bien que mal. On fait un peu des efforts, on y arrive. Et le soir, au retour à la maison... Non, non. Oui, oui, c'est bien allé, merci. Puis ensuite, bien sûr, je me dis, ben, faut que j'aille un moment tranquille, je vais au bureau. Je vais m'asseoir sur mon bureau, et là, je tombe sur un de ces fameux présentoirs avec des super versets bibliques. Je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Moi, non, je prends un autre. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Bon, on va en comprendre un. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force est en Dieu. Au passage, je remercie la personne qui me les a offerts parce qu'il est génial. Mais à ce moment-là, quand on rentre, on n'a juste pas envie de ça. On m'a dit non, non, mais j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. C'est vrai, dans la vie de tous les jours, il y a des moments où c'est difficile, où on est déprimé, où on est découragé. Et pourtant, la Bible, elle me promet la joie, la paix, elle me promet la sagesse. Alors, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui joue pas? Il y a quelque chose qui fait que ma vie est décalée de la volonté de Dieu, puisque je ne vis pas ce que la parole de Dieu me promet. On vit dans une société, on le sait, une société de consommation où tout m'est dû, et puis ça m'est dû tout de suite, c'est le moi d'abord, et l'Église et notre vie de foi est influencée par ces choses, j'en suis convaincu. Dans nos vies, Christ peut très facilement devenir un produit de consommation. Ça veut dire que quand j'en ai besoin, là je vais le chercher. Quand il me le faut, je vais le chercher. Par exemple, la joie, je prends pas. La joie, vous prenez ou vous prenez pas? On la prend, ouais, moi je pense. La paix, on la prend. L'abondance, on prend. La réussite, mais bien sûr, on prend. La soumission, on réfléchit à deux fois. Le sacrifice, bon, pas forcément. La persévérance, ouais, non. Hein. Ça, ces choses-là, ça m'intéresse moins. Ceux qui me connaissent savent que dans la Bible, il y a certains livres que j'apprécie particulièrement, c'est les petits prophètes. Je vous ai déjà plusieurs fois parlé d'Agée. Ce matin, je ne vais pas vous parler de lui. Je vais vous parler d'un autre petit prophète qui est venu juste après Agée. Le peuple d'Israël avait été déporté de son pays. Et à un moment donné, il est revenu d'exil et il a rebâti Jérusalem, il a rebâti le temple. Et à ce moment-là, c'est Agée qui est venu en leur disant, mais vous bâtissez vos maisons, mais donnez-moi la priorité à moi en tant que Dieu. Et rebâtissez le temple. Et c'est ce que le peuple a fait. Et le peuple a vécu pendant une centaine d'années, tout allait bien, tout marchait, tout roulait, tout fonctionnait, il n'y avait plus de problèmes, plus de difficultés. Et gentiment, Dieu, on l'a oublié, on l'a mis de côté parce qu'on n'en avait plus vraiment besoin. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Malachie, le prophète Malachie. Il arrive dans ce moment où Israël est dans sa routine, où Israël pense à lui-même plutôt qu'à Dieu. Et au travers de Malachie, Dieu va parler à son peuple. Il ne va pas y aller par quatre chemins. On va lire quelques passages, vous verrez, il est clair, c'est net, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Mais Dieu confronte son peuple au travers de son prophète. Tout d'abord, au début du livre, tout au début, les premiers mots qui sont dans ce livre, c'est « Je vous ai aimé ». Dieu dit à son peuple, mais « Je vous aime, je vous ai aimé ». Si aujourd'hui j'ai des choses à vous dire, c'est parce que je vous aime, parce que je tiens à vous, parce que je tiens à avoir cette relation, cette alliance que j'ai formée avec vous, à la garder. Et tout ce qui va suivre, Dieu va le dire par amour pour son peuple. Et on va lire quelques passages de ce livre de Malachie, déjà dans le chapitre 1 au verset 6, à partir du verset 6. 6 à 8 et puis 11 à 13. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. À vous, les prêtres, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est dérisoire. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc, offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et à partir du verset 11, « En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et partout on fait brûler de l'encens en l'honneur de mon nom. On présente des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mais vous, vous le déshonorez en déclarant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. Vous dites, quel ennui! Et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, vous amenez des bêtes volées, boiteuses ou malades. Voilà les offrandes que vous faites. Puis-je les accepter de vos mains, dit l'Éternel? On voit tout de suite le contexte. Hein. Le peuple d'Israël s'est vraiment endormi dans son fonctionnement. Sa relation avec Dieu est devenue ennuyeuse pour lui. C'est quelque chose de lourd, de pénible. Et au chapitre 2, on continue à partir du verset 7 et 8, c'est les responsables du peuple qui se sont écartés de Dieu. En effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance, c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel, le maître de l'univers. Mais vous, vous vous êtes écartés de cette voie, vous en avez fait trébucher beaucoup par le moyen de la loi. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Même les responsables, même ceux qui étaient censés être les porte-paroles de Dieu dans le peuple, se sont éloignés de lui. Dans ce chapitre, il parle aussi de l'engagement du mariage qui est totalement méprisé. À partir du verset 13, « Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes, qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, et pourtant elle était ta compagne, et la femme avec laquelle tu t'étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. » C'est des paroles dures, des paroles claires, des paroles que le Seigneur donne à son peuple. Il n'emballe pas les choses, il leur dit les choses très clairement. Et même la justice de Dieu est remise en question. Verset 17. « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué ? C'est en disant, l'Éternel voit d'un bon œil celui qui fait le mal. C'est en lui qu'il prend plaisir. Ou encore, où est le Dieu de la justice ? » Voilà les paroles que Dieu a à dire à son peuple. Et son peuple, il n'est pas prêt du tout à les recevoir. Il se justifie. Franchement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus harmonieux comme relation avec Dieu, comme relation entre Dieu et puis son peuple. Et je me dis, mais c'est vrai. On peut tellement facilement se relâcher, tellement facilement oublier ce que Dieu attend de nous. La lecture de ces livres de Agée, de Malachie, tous ces petits prophètes, pour moi, j'appelle ça les prophètes pour notre temps. C'est des prophètes qui, aujourd'hui, pourraient nous parler exactement de la même manière. C'est les prophètes pour 2020, prophètes pour notre société, prophètes pour l'Église d'aujourd'hui. Et ça commence par moi. Et franchement, ce livre de Malachie, il n'est pas très long. Mais si on prend le temps de le lire et d'y réfléchir, ça prend du temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a à nous dire, à nous personnellement. Il y a beaucoup de choses qu'il a eu à me dire à moi aussi, et qu'il a encore à me dire. Qu'est-ce que ce texte me dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit à chacun? Dieu est méprisé, sa sainteté est méprisée, sa justice, elle est oubliée. On le voit aujourd'hui autour de nous, dans les lois qui sont décidées, dans le fonctionnement de notre société. C'est vrai tout autour de nous, mais est-ce que ce n'est pas aussi vrai parfois dans ma vie, où j'oublie certaines choses, certaines lois de Dieu, certaines lois qui sont là pour mon bien? Prenons juste un temps pour repenser à nos journées, à ce qu'on vit jour après jour. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que je regarde, mes réactions dans des situations que je peux vivre, mes réactions face à des situations que je peux constater, mes priorités aussi, mes choix de vie, est-ce que tout ça, je pourrais le faire de la même manière si j'avais Jésus physiquement à côté de moi? Je m'imagine des fois une journée entière avec Jésus physiquement à côté de moi. Est-ce que tout ce que je fais, est-ce que tout ce que je vis, Jésus serait avec moi et puis je pourrais y aller, amen, alléluia, sans problème? Et pourtant, il est avec moi à chaque instant, il est là. Franchement, comme le peuple d'Israël, je pense qu'on aurait besoin de beaucoup d'énergie pour essayer de nous justifier dans nos façons de réagir, dans nos façons d'être. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul met ses Corinthiens exactement aussi face à la réalité de leur comportement. Ils étaient comme nous, c'est des humains comme nous. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 7. « Vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle. » Paul compare ici l'Église. Il nous compare à une pâte sans levain. J'y ajoute un tout petit peu de levain, c'est toute la pâte qui est touchée, c'est toute la pâte qui va lever. Ce n'est pas juste un petit peu de pâte, c'est le tout qui va lever. Autrement dit, une porte ouverte au compromis dans n'importe quel domaine de ma vie, ça va avoir un impact sur toute ma vie de chrétien, sur toute ma relation avec Dieu. Et même plus, ça va avoir un impact sur la vie de mon Église dans laquelle je suis. On a une responsabilité devant Dieu, une responsabilité, un choix, des décisions à prendre dans nos vies. Alors j'en reviens à ma question du début. Dieu, dans sa parole, il me promet la bénédiction. Alors pourquoi est-ce qu'il ne bénit pas plus ma vie, ma famille? Pourquoi est-ce qu'il ne bénit pas plus mon Église? Ésaïe résume très bien aussi cette situation au chapitre 59. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est nous. Quand Dieu commence par dire à son peuple, « Moi, je vous aime », ce n'est pas juste des paroles qu'il prononce, ce n'est pas juste des paroles qu'il leur dit pour les appâter. De la part de Dieu, il y a un engagement, il y a une alliance qui a été scellée. Et cette alliance, Dieu veut la tenir, Dieu la tient, la garde. Cette alliance a été faite avec son peuple. Je vous aime, je veux le meilleur pour vous, je veux vous bénir. Jérémie 29, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ça, c'est les projets de Dieu pour ma vie, pour nos vies à chacun. Et ça, c'est la partie de Dieu, la partie de l'alliance qui engage Dieu. Et son alliance, il l'a tenue jusqu'au bout. Il l'a tenu jusqu'au point d'envoyer son fils Jésus sur la terre, de nous envoyer son fils qui est venu mourir en sacrifice sur la croix. Et quand il est mort sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. Christ a tout accompli pour moi. Il a tout accompli pour toi. Il a tout accompli pour nous. Sa mort à la croix, c'est l'amour inconditionnel de Jésus. Juste avant sa crucifixion, quand il était dans le jardin de Gethsémané, quand Jésus prie son Père, il lui demande d'éloigner de lui ce moment qui va arriver, ce moment qui va être impossible à tenir. Il lui disait, mais si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et je m'imagine que quand Jésus disait ces mots, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux, il me voyait moi, il te voyait toi, et il se disait, mais je ne peux pas le laisser tomber, je ne peux pas la laisser tomber. Je dois aller au bout, je veux aller jusqu'au bout parce que je les aime, parce que je l'aime, parce que je vous aime. J'irai au bout de ce que je dois faire pour que Florence, pour que Marianne, pour que Thérèse, pour que Bertrand, etc., pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous présenter devant Dieu, purifiés, libérés du péché par le sang de Jésus. C'est comme ça qu'on peut se présenter devant Dieu, au travers de Jésus. Pour en revenir à Malachie, au chapitre 3, au verset 14, Dieu leur reproche ceci encore. « Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le Maître de l'univers ?» Ils en sont arrivés à ça, finalement. Inutile de servir Dieu. Parce que le servir, c'est... On doit marcher dans le deuil ou dans d'autres traductions, c'est marqué dans la tristesse. Est-ce que ma relation à Dieu, c'est quelque chose de triste? Est-ce que c'est quelque chose de lourd? C'est ce que le peuple d'Israël expérimentait avec Dieu. Ils n'avaient plus aucun souvenir des bénédictions que Dieu leur a données, les manières dont Dieu a agi dans la vie de ce peuple. Tout est oublié. Et oui, il y a vraiment un problème. Mais c'est exactement ce que notre société d'aujourd'hui dit. Qui n'a jamais entendu autour de lui quelqu'un dire « Ah, tu vas à l'église dans ces endroits où c'est tellement triste, où c'est tellement vieillot, etc. » On a une image de la relation à Dieu qui est la même dans notre société. Et même dans l'église. C'est ce que beaucoup disent dans l'église aujourd'hui. C'est triste, c'est morne, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se vit. Mais il est où le problème? C'est à moi de me réveiller, c'est à nous de nous réveiller. Et en pensant à ça, j'ai repensé au message de dimanche passé que Nicolas nous a donné, quand il parlait de la parabole des 10 jeunes filles qui étaient invitées aux noces. Il y en a 5 qui se sont lassées d'attendre, qui ont laissé... quelque part qui était là, qui savait qu'il y aurait ces noces, mais qui en avait un petit peu marre d'attendre, qui se sont laissés aller. Elles se sont relâchées. Et les 5 autres qui ont persévéré, qui se sont tenues prêtes, qui sont restées prêtes, qui ont persévéré. Et au moment où l'époux est arrivé, ces 5 personnes-là sont entrées avec lui pour la fête. Pour les autres, c'était trop tard. Elles n'ont plus le temps de se préparer. Et Malachie, à la fin de son livre, il parle de ces 2 catégories de personnes. Norma en a parlé aussi dans le psaume 1. Il y a ceux qui sont heureux dans la présence de Dieu, et il y a les autres. Malachie 3, versets 16 à 18. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Cette réalité, elle est là. Ces 2 camps. Et il y a une différence. Et on verra de plus en plus cette différence entre celui qui sert Dieu, celui qui veut le servir, et celui qui ne le sert pas. Est-ce que je suis, dans quel camp est-ce que je me trouve? Dans celui des fatigués, des lassés, des désabusés, ou dans celui des persévérants? À chacun d'entre nous, de nous poser cette question. Mais moi, j'aimerais nous voir tous dans ce deuxième groupe, le groupe de ceux qui persévèrent dans la justice, dans la vérité. Mais pour ne pas tomber, on a besoin de quelque chose de clair, de particulier. J'ai dans ma poche arrière une balle de ping-pong. Vous allez vous demander à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça vient faire là au milieu? C'est quoi cette balle de ping-pong ici dans ma poche arrière? Elle est dans ma poche arrière parce que dans ma poche arrière, elle me dérange. Et à chaque fois que je suis fatigué, que je m'assois ou que je m'appuie contre quelque chose, il y a cette balle de ping-pong qui me dérange. Et quelque part, elle me rappelle que non, je dois pas être, j'ai pas à être assis, j'ai pas à être appuyé, j'ai à avancer, j'ai à persévérer, à tenir ferme. Cette petite balle, c'est l'image de l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. C'est qu'une image, hein. Sachez-le bien. C'est pas la petite balle qui va changer votre vie. Mais c'est cette image. À chaque fois que je suis fatigué, que j'en ai marre, que le compromis ou la séduction du monde me tente, qu'il me guette, le Saint-Esprit va venir me déranger. Il va venir me déranger en me disant, mais c'est pas là ta place. C'est pas ce que tu es censé vivre, c'est pas ce à quoi tu es appelé de vivre. Si le Saint-Esprit habite en toi, c'est exactement ce qu'il va faire dans ta vie. Il va te rappeler que tu peux compter sur les promesses de Dieu, sur son engagement envers toi. Il a tout accompli. Ce tout est accompli. Il a tout fait. Il a tout fait. Il n'a plus rien à faire. C'est là, c'est devant nous. C'est à nous de prendre, de choisir et de vouloir vivre ces choses. Chaque fois que le découragement, la tentation, le compromis essayeront de t'éloigner de Dieu, entends le Saint-Esprit qui te dit, mais ce n'est pas là ta place. J'ai autre chose pour toi. J'ai autre chose pour toi. Ne t'asseye pas. Ne te repose pas. Continue d'avancer. Persévère. Ce sera toujours notre responsabilité de vouloir l'écouter ou de vouloir l'ignorer. À un moment donné, cette balle de ping-pong, si je continue de m'asseoir dessus tout le temps, elle va s'écraser, je ne la sentirai plus vraiment. C'est à nous de persévérer et de ne pas simplement nous laisser envahir par les difficultés. On a notre part à faire, Christ a fait la sienne. J'aimerais vraiment nous inviter à oser nous laisser remettre en question par Dieu. Vraiment, osons nous laisser transformer par Dieu. Moi, je vous invite vraiment à reprendre ce livre de Malachie, à le lire. Lisez-le, prenez le temps de le méditer. Vous allez voir, il y a des choses qui sont tellement claires là devant nous, ça nous parle, parce que c'est pour aujourd'hui. Avant que je prie, j'aimerais juste demander à Mathilde de venir. Elle m'a proposé aussi quelques versets. Il y a un des versets qu'elle va vous lire.
Alors l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, il ne t'effraiera point. C'est Deutéronome 31:8.
Merci. Cette promesse, Dieu l'a donnée au peuple d'Israël. Dans un moment bien précis, dans un moment où ils devaient faire un choix, où ils devaient choisir de persévérer, ils avaient vraiment besoin de persévérer. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point, ne t'effraie point. Ça peut faire peur. Quelque part, c'est parfois marcher, partir presque dans le vide et de faire confiance à Dieu. Ne crains point, ne t'effraie point. Je suis avec toi. C'est la promesse de Dieu pour nos vies, pour chacune de nos vies. C'est la promesse de Dieu pour toi, pour moi. Est-ce qu'on est prêt à recevoir cette promesse et à réagir en conséquence? Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que oui, tu es Dieu. Tu es ce Dieu qui nous conduit pas après pas. Ce Dieu qui a des projets de bénédiction sur chacune de nos vies. Des projets, Seigneur, où tu veux agir dans nos vies, où tu veux qu'on soit tes porte-paroles, qu'on soit, Seigneur, tes témoins là où tu nous places. Mais pour ça, Seigneur, tu nous veux debout. Tu nous veux, Seigneur, marchant à ta suite, marchant avec toi. Seigneur, merci parce que tu nous promets d'être avec nous, tu nous promets d'être à nos côtés, tu nous promets de marcher avec nous. Seigneur, je veux simplement appeler ta bénédiction sur chacun aujourd'hui. Te demander, Saint-Esprit, de venir en nous, de venir révéler les choses qui nous empêchent d'être debout avec toi. D'être debout à chaque instant. Seigneur, qu'on puisse apprendre à entendre ta voix, qu'on puisse apprendre à se laisser transformer par ta voix, à se laisser encourager par ta voix. Seigneur, qu'on puisse regarder à toi, ne pas se laisser impressionner par le vide qu'il peut y avoir autour de nous, mais regarder à toi et avancer, avancer encore, parce que tu nous conduis, tu nous tiens par la main. Seigneur, merci pour ta fidélité. Et merci, Seigneur, parce que si aujourd'hui tu nous appelles encore, c'est parce qu'aujourd'hui la porte est encore grande ouverte. La porte est encore grande ouverte pour venir dans ta présence, recevoir, Seigneur, ton cœur, recevoir ton esprit en nous, recevoir ta vie en nous. Le Saint-Esprit, viens dans chacune de nos vies, là où tu n'es pas le roi, viens prendre cette place et que nos vies soient transformées, Seigneur, transformées encore pour que nous allions de l'avant avec toi. Merci Père, parce qu'on peut compter sur toi, sur ta présence. Amen. Amen.